France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Archimède, on garde l'image sympathique de ce savant hurlant, nu, son fameux Eureka, dans les rues de Syracuse, en sortant de son bain. Mais au-delà des légendes, quel est son héritage pour la science moderne ? Au 3e siècle avant notre ère, en Sicile, Archimède est peut-être l'un des plus célèbres esprits de son temps. Géomètre, physicien, mathématicien, ingénieur, sa découverte la plus célèbre reste le principe de la poussée d'Archimède, qui explique pourquoi un objet flotte au lieu de couler. Il développe également une nouvelle méthode de calcul de la constante pi, qui près de 2000 ans avant Newton et Leibniz, préfigure le calcul intégral et infinitésimal. Comment ces découvertes a priori inutiles à son époque se sont révélées capitales au cours des siècles suivants. Archimède, on se remet dans le bain. Jean Dombre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mathématicien et historien des mathématiques. Jérôme Pérez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur en astrophysique théorique à l'ENSTA, l'École nationale supérieure de technique avancée de l'Institut Polytechnique à Paris. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici en direct dans nos studios à France Culture. Et merci à vous d'être là au rendez-vous en direct ou à toute heure, en podcast. Vous pouvez suivre cette émission également en nous suivant sur Blue Sky. Pour vous, on publie tous les jours de nombreuses ressources complémentaires pour nourrir votre écoute. C'est à retrouver sur notre compte @sciencesqfd. Alors, quelle est la très fameuse poussée d'Archimède et quelle a été la modernité de sa méthode ? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, quelle est la singularité de la pensée mathématique de ce savant dans cette civilisation grecque ? C'est notre première archive.
Archimède est un Américain. Voilà. Le mot était prononcé, je crois très justement.
Il est à l'extrême occident de la civilisation grecque. Dans une colonie où le progrès technique a été considérable, il n'est pas étonnant qu'il ait un état d'esprit différent des gens qui sont restés dans la mère patrie, ou c'est aux vrai. Environs de la mère patrie. Il a aussi une forme d'esprit que nous rencontrons chez beaucoup de mathématiciens ultérieurs. Certains mathématiciens ne sont inspirés que par la mathématique pure, sont des puristes des mathématiques, et remettent au point les découvertes des autres, ou bien font de nouvelles découvertes à partir des découvertes mathématiques déjà faites. D'autres prennent leur inspiration à l'extérieur des mathématiques. Nous avons Fourier, par exemple. Archimède est de ce type. Dans un pays où le progrès technique a été considérable, il s'intéresse aux machines, aux leviers. Il doit faire peut-être comme a fait plus tard Galilée, qui allait visiter l'arsenal de Venise. Peut-être visitait-il l'arsenal de Syracuse, et voyant les machines, en dégageait-il les principes mathématiques. Car Archimède n'a pas appliqué les mathématiques à la technique, mais s'est inspiré de la technique pour faire des mathématiques.
Voilà un extrait de l'émission Analyse spectrale de l'Occident sur la RDF en 1958 et la voix de Jean Itard, historien des mathématiques. Jean Dombre, vous êtes d'accord avec ça que chez Archimède, voilà, il y a toujours ce côté très pratique qui explique, il explique à peu près tout par les mathématiques. Il y a toujours un aspect pratique derrière.
Il y a sans doute toujours un aspect pratique. La seule chose qu'on ne sache pas, c'est est-ce qu'il a commencé par connaître de la technique, être technicien, etc., puis faire des mathématiques, c'est une thèse. Et nous avons exactement la thèse contraire, selon les érudits, à savoir que c'est un mathématicien pur, et puis il en est venu à s'intéresser, l'inspiration qui vient de l'extérieur, tout à fait, à des affaires de technique, le levier, etc. Par contre, il y a une chose est certaine, nous n'avons rien de lui sur la technique. C'est sûr qu'il en a fait, mais on n'a rien.
Et on reviendra en effet sur ses sources biographiques, mais je voulais écouter votre écoute, Jérôme Pérez, de cette archive, vous aussi.
Alors c'était très intéressant. Alors, comme le dit Jean, hein, c'est quelqu'un qui était inspiré soit par l'un, soit par l'autre, mais ce qu'on sait de façon certaine, c'est que c'était un touche-à-tout. Il a fait énormément de choses. Et comme un peu toutes les personnes qui font beaucoup de choses, bah de temps en temps, c'est les mathématiques qui ont dû déboucher sur des choses techniques, et de temps en temps, c'est le contraire. Mais comme on n'a aucune trace écrite, on peut rien affirmer. On peut simplement constater que énormément de gens ont parlé de lui et l'ont mentionné comme quelqu'un de tout à fait érudit et extraordinaire.
C'est ça le souci avec cette figure qui en plus est devenue une figure légendaire, c'est qu'on a très peu de sources sur sa vie, sauf que quelques épisodes qui sont racontés par Plutarque, mais plusieurs siècles après sa mort. Alors, Jean Dombre, qu'est-ce qu'on peut dire quand même de ce savant? Qui était Archimède? D'où vient-il? Dans quel contexte se situe-t-il?
Alors, c'est difficile de répondre, mais je voudrais d'abord répondre à une première chose. Oui, nous ne savons presque rien. Mais par contre, ce que nous savons, c'est sa postérité. Dans l'Antiquité, romaine en particulier, Archimède est aussi connu, aussi cité qu'Homère. Hein, le grand poète et le grand savant et même technicien. Cicéro en parle, enfin tout le monde en parle. Donc c'est un premier point très connu. C'est simplement, avec les siècles, il y a eu une perte, Moyen-Âge nettement moins connu, mais enfin c'est revenu avec la Renaissance, etc. Deuxièmement, la bonne question c'est, qu'est-ce qui fait, quelle est sa formation, quelle est... Eh bien ça, nous n'en savons rien, nous savons simplement et qu'il est en relation avec les gens, les savants qui se trouvent au Muséum d'Alexandrie, mais en relation profonde. Nous savons aussi qu'il est en relation nette avec le roi Hiéron et sa cour, c'est-à-dire aussi le roi Hiéron, il sait très bien que les Romains vont venir et qu'il a déjà prévu de lutter. Et l'armée, les techniques jouent un rôle là tout à fait essentiel. Donc on peut penser, même si nous ne savons rien, est-ce que Archimède est fils de prince, est-ce qu'Archimède est fils de n'importe qui, mais s'est fait connaître, nous n'en savons rien, et j'allais dire un peu peu importe, on ne sait rien, mais il est lié avec tout ce qui peut compter comme savoir, aussi bien technique sans doute, et certainement de savoir, Muséum d'Alexandrie, etc.
Oui, parce que voilà, on peut parler de ce cadre. On est au IIIe siècle avant notre ère. Jérôme Pérez, quel est ce contexte scientifique de cette époque-là et les grandes orientations de la recherche?
Voilà, donc Archimède vit une époque formidable. Ça, c'est, on peut vraiment le dire. On est au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand vient de conquérir l'Europe et puis il meurt. Et le partage des diadoques sépare l'Europe en 5 grandes parties, on va dire, et une de ces parties est attribuée à Ptolémée, qui va fonder la dynastie des Lagides et la bibliothèque d'Alexandrie. Et cette bibliothèque d'Alexandrie, on peut faire la comparaison avec le CNRS. En fait, c'est un endroit où il y a des gens qui sont à demeure, payés par le roi, pour faire de la recherche, acquérir des documents, s'intéresser à tout un tas de choses. Alors, la volonté du roi, c'était bien sûr de développer la ville, de la construire, de la doter d'un port, de machines de guerre comme des bateaux gigantesques. Et donc, il fallait développer de la technique, il fallait observer le ciel, mesurer le temps, mesurer la longitude, la latitude. Et donc, ça a contribué à un développement extraordinaire à cette époque. Et Archimède est un contemporain de cette époque. Et donc, les mathématiques, la physique, l'astronomie se sont extrêmement développées à cette époque, 3e siècle avant Jésus-Christ. Ça a duré 2 siècles. Et c'est un essor considérable dans tous ces domaines, et Archimède a été un des membres de ce développement incroyable.
C'est que notre savant est mort à la fin du siège de Syracuse par les Romains, on est en moins 212 avant notre ère. Il est tué par un soldat romain au cours du sac de la ville, et on sait par contre que c'est un homme qui voulait que la science joue un rôle politique, qu'elle doit jouer notamment un rôle de défense de la cité. Jérôme Dombre, il est très célèbre pour ses talents d'ingénieur.
Ah, il est très célèbre et à juste titre. Le fait qu'il il fait partie de ces gens qui ont inventé la notion de l'ingénieur savant, c'est-à-dire celui qui est associé. Alors, on ne peut pas dire à l'État, c'est la cité dans le cadre de Syracuse, mais qui garde, et ça c'est assez intéressant, qui garde son autonomie. Je veux dire que nous n'avons pas de texte, alors peut-être que ça manque, mais nous n'avons pas de texte dans lequel Archimède se met à plat ventre pour demander de l'argent, etc., devant le roi ou devant les Lagides d'Alexandrie. Au contraire, ses correspondances, c'est il parle comme un seigneur, enfin un seigneur de la connaissance, un seigneur du savoir, et un seigneur aussi du monde technique. Ça, c'est assez remarquable, comme, enfin, d'après les textes que nous avons. Mais moi, je trouve que ce qui est essentiel dans cette affaire, c'est de ne pas oublier la postérité, la façon dont, pensez qu'au XVIe siècle, on met en français encore la vie d'Archimède par Plutarque et on la commente et on en fait toute une histoire. C'est sérieux comme affaire. C'est peut-être notre monde au XXe siècle qui, vis-à-vis des savants, paraît moins intéressé par essayer de savoir ce qui les meut. C'est-à-dire pourquoi ils font ça. Ça, bon, voilà ce qu'on peut dire.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des traités, des ouvrages scientifiques théoriques qui lui sont attribués. Il y en a beaucoup, hein, 12 de ces traités qui nous sont parvenus, en hydrostatique, mécanique, mesure des volumes et densité d'un objet. Par rapport aux machines de guerre, on a aussi un historien qui s'est penché sur ces constructions. Et puis on a aussi un certain nombre de légendes. La griffe, une sorte de grue avec un crochet pour faire chavirer les navires. Et puis, alors, autre légende très fameuse, son rayon thermique. Ça frappe les imaginaires. Jérôme Pérez, un miroir ardent qui brûle, qui met le feu aux voiles. Techniquement, c'est possible,
voilà. Alors, c'est une légende qui dit que, voyant arriver l'armée romaine, il aurait réfléchi et imaginé qu'en orientant la lumière du soleil vers les voiles ou la coque, on ne sait pas très bien, eh ben, il aurait enflammé les bateaux. Alors, on peut en douter, tout simplement parce qu'on a réalisé l'expérience avec des moyens modernes, à plusieurs reprises. Alors il y a plusieurs paramètres qu'on ne connaît pas, c'est l'intensité du soleil, etc. Mais bon, on a essayé de prendre un peu les mêmes conditions. On a fait des expériences sur des bateaux immobiles, ça marche pas bien. Sur les voiles, ça marche pas bien parce que les voiles sont souvent de couleur blanche, donc ça réfléchit la lumière au lieu de l'absorber. Enfin, on n'a jamais vraiment réussi à la reproduire, cette expérience. Sauf si les bateaux sont à quelques dizaines de mètres, ce qui ne devait pas être le cas de la flotte de Rome.
En tout cas, vous voyez que cet épisode du miroir, ça fait un peu d'Archimède, une sorte de magicien.
C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
En revanche, Archimède...
Peut-être qu'il a réussi à faire un peu de fumée, ça c'est pas impossible, mais enflammer toute la flotte de Rome avec simplement les boucliers de ses soldats, c'est un peu imaginaire.
En revanche, Jean Dombre, Archimède ingénieur, c'est la création de la vis d'Archimède. Comment résoudre justement des problèmes d'évacuation de l'eau d'un navire ?
Sans doute, il a piqué cela, et après tout, pourquoi pas, sur ce que faisaient les Égyptiens, la vis d'Archimède. C'est assez simple à comprendre, hein, une forme de vis, de l'eau, et un mouvement avec une manivelle, et ça monte, disons, intuitivement. Bon, c'était... Mais ce qui est intéressant avec Archimède, c'est qu'il en fait une théorie. C'est que et ça va plus loin, c'est-à-dire qu'il considère, et on n'a pas beaucoup d'autres exemples, dans l'Antiquité, il considère qu'une courbe, alors si on peut simplifier une courbe comme une spirale, quelque chose qui tourne en hauteur, c'est quelque chose qui mérite de s'y intéresser. Il est le premier à avoir calculé explicitement, c'est-à-dire pas simplement dire en gros ça vaut tant, calculer l'air d'une spire de spirale. C'est pas dans Euclide, c'était pas avant, etc. J'aurais tendance à croire que la vis d'Archimède n'a pas été étrangère, non pas au calcul, mais à l'idée que ça valait le coup de regarder détail ces choses-là.
Oui, puis là, on est dans le cas de peut-être l'inspiration par quelque chose de technique.
Exactement.
Il voit la spirale qui permet, ça devait sûrement exister, comme tu le dis, chez les Égyptiens, puisqu'ils avaient vraiment des problèmes d'eau à régler. Et donc, en essayant de comprendre ce que c'était que cette spirale, quand on la modélise, la plus simple des spirales, c'est la spirale d'Archimède, mais elle a des propriétés extraordinaires. Par exemple, quand on regarde un peu ses proportions, des cercles qu'on peut fabriquer avec, etc., eh bien, on s'aperçoit que si on sait construire une vis d'Archimède, eh bien, on sait résoudre deux des problèmes de l'Antiquité, qui sont la quadrature du cercle et la trisection de l'angle.
Et avant d'en venir aux mathématiques, il faut quand même commencer par ce pourquoi Archimède est le plus connu, le principe de la poussée d'Archimède. On y arrive.
Well now, with just over a minute left, the replay on Tuesday looks absolutely vital. And there's Archimedes.
France Culture.
And I think he's had an idea.
La science, CQFD.
Eureka!
Natacha Triou.
Nous sommes en direct sur France Culture et nous parlons donc d'Archimède, un des plus grands mathématiciens de l'histoire, né vers moins 287 avant notre ère, à Syracuse, en Sicile. On vient d'évoquer ses inventions, ses découvertes en mécanique. Parlons maintenant de son fameux principe.
Archimède est un grand mathématicien. On peut dire que dans ses travaux de géométrie, il fut un précurseur du calcul infinitésimal. C'est en mathématicien qu'il examine les phénomènes des physiques et qu'il apporte des solutions qui sont encore valables dans la science moderne. Nous avons tous appris le principe d'Archimède. Tout corps plongé dans un liquide subit de la part de ce liquide une poussée dirigée de bas en haut est égal au poids du liquide dépassé. Ce principe est à la base, reste à la base de l'hydrostatique. On aime à répéter qu'Archimède trouva dans son bain la solution d'un problème posé par le tyran de Syracuse qui avait des soupçons sur le bon aloi d'une couronne d'or. Archimède courut aussitôt dans les rues de la ville en criant « Eureka !» On a souvent plus de mémoire pour cette anecdote que pour la démonstration du théorème. Nous devons donc insister sur le fait que le principe d'Archimède se démontre mathématiquement et se vérifie expérimentalement. On peut le donner, ce principe, précisément comme un lumineux exemple de la synthèse d'une vérité mathématique et d'une vérité expérimentale. Il est vraiment un document de science totale.
Voilà Gaston Bachelard sur la pensée grecque dans l'émission Connaissance de l'homme, diffusée sur la RDF en 1954. Jean Dombes, en effet, ce principe de la poussée, c'est un document de science totale.
Ah oui, ça c'est très net. Puis en plus, c'est très agréable d'entendre Gaston Bachelard avec son accent bourguignon. C'était absolument irrésistible. Ceci dit, ce qu'il dit est voilà, c'est fondamental. Je modifierais l'affaire en ce sens que, enfin, modifierais. Il y a plusieurs façons d'expliquer la façon dont Archimède a montré que la couronne d'or, soi-disant d'or pur du roi Hiéron, ne l'était peut-être pas. Alors il y a une façon simple, mais est-ce qu'Archimède l'a fait ? Nous ne savons pas. Alors c'est là où il y a la poussée d'Archimède. C'est clair que s'il y a une poussée sur un corps que je plonge dans l'eau, eh bien, un corps d'un certain poids va avoir, si je le mets dans l'eau, va avoir un autre poids, un poids apparent. C'est pas son vrai poids que je peux mesurer. Moralité, si j'ai une couronne qui est composée d'or, d'argent, un même poids qui est composé d'argent pur, un autre qui est composé d'or pur, je vais pouvoir faire une règle de 3 assez simple en fonction du poids apparent. Alors comment je mesure ensuite le poids apparent ? Il y a plusieurs solutions, mais c'est une simple règle de 3. Ça, c'est une façon, par la poussée d'Archimède, c'est-à-dire un phénomène. Il n'a pas beaucoup besoin de mathématiques, là. Il y a la règle de 3, et puis il y a une poussée verticale qui est le volume de la chose que je mets dans l'eau. Il y a une autre affaire qui est de calculer les densités autrement par le fait quand je plonge dans un bac où j'ai mis à ras-bord l'eau, et puis quand je plonge une certaine chose, alors cette fois-ci, ce sera le volume qui sera identique, mais suivant que l'eau va déborder, qu'est-ce qui va déborder ? En fonction du volume, j'ai bien dit, les choses vont être différentes, donc en calculant l'eau qui déborde, ou alors, disons autrement, en renversant de l'eau, l'expérience, c'est pas si simple à faire, mais enfin bon, on peut y arriver, justement. Donc vous avez, et là, cette fois-ci, vous avez aussi une règle de 3, tout à fait simple, mais qui ne fait pas intervenir la poussée. Voilà, vous avez deux solutions, Et pourquoi ne pas accepter qu'Archimède ait fait les deux? Nous n'en savons rien, nous n'avons pas de preuves.
On n'en sait rien. Et je pense que la poussée d'Archimède, c'est quelque chose qui se constate avant tout. Oui. C'est quelque chose de très physique, en fait. Quand on plonge quelque chose, voilà. Je sais pas, une balle ou n'importe quoi dans un liquide, et qu'on la lâche, on voit qu'elle remonte. Et ça, c'est assez simple à comprendre, parce que, en fait, quand on a un liquide tout seul, elle est complètement immobile, etc., on sait que l'eau, ça a un certain poids, ça pèse 1 kg par litre. Et donc, on se dit, puisque un volume d'eau a un poids, dans un liquide immobile, comment se fait-il que ce liquide ne tombe pas à l'intérieur, si on considère un morceau de ce liquide? Eh bien, c'est parce qu'il est soumis à une force qui va s'opposer à ce poids. Et donc, c'est cette fameuse poussée d'Archimède. Et donc, si maintenant on remplace ce liquide par quelque chose qui pèse moins lourd, par exemple une sphère d'air, comme une balle, le volume va être non plus de l'eau, mais de l'air. L'air pèse beaucoup moins que l'eau, et donc du coup, est beaucoup moins dense que l'eau. Et donc du coup, le poids va être moins important et la balle va remonter. Donc je pense que c'est simplement une constatation expérimentale qu'il a dû faire. Et ensuite, il a imaginé qu'on pouvait mettre ça en scène pour résoudre le fameux problème du faussaire de Hiéron.
Voilà. Mais ce qui est assez magique dans cette histoire, c'est qu'on a ce roi Hiéron qui veut voir si sa couronne est vraiment faite d'or. Et ça montre, la morale de cette histoire, c'est que ça dit que la science peut servir à dire ce qui est un fake, finalement, Jean Dombre.
Tout à fait, et qu'il y a une postérité à cela. C'est-à-dire, là, on parlait des problèmes des bateaux, finalement. C'est pourquoi ça. Un bateau tient sur l'eau? C'est bien à cause de la poussée d'Archimède, bien sûr. Vers le début du XVIIIe siècle, on va, et ça va être directement rattaché à Archimède, on va inventer un moyen mathématique. De savoir, là on dit il y a une poussée qui s'exerce verticalement, mais chacun sait que à partir de la chose plongée dans l'eau, mais chacun sait que quand un bateau avance, même est au port, ça bouge. Donc la forme de la poussée d'Archimède, compte tenu de la forme de la coque, change. Et ce qu'on va définir à partir du XVIIIe siècle, ce qu'on appelle le métacentre, c'est tout simplement l'endroit dans un bateau où la poussée d'Archimède, exactement la poussée d'Archimède, s'installe. Et on va en déduire, mais pratiquement on aurait pu le faire avec ce qu'avait fait Archimède, à ceci près que c'est plus simple, plus clair, si on a déjà derrière soi une idée du calcul infinitésimal dont parlait Gaston Bachelard, à juste titre.
Il faut aussi la notion de force.
La notion de force.
Et de pression, qui viendra qu'avec Pascal plus tard. Dès qu'on a des forces, voilà. Et qu'on a décomposé. Parce qu'en fait, la poussée d'Archimède, ça se comprend aussi très simplement. Quand on descend dans l'eau d'une piscine, etc., on sent qu'il y a la pression qui augmente. Donc la pression est plus forte au bas de la piscine, parce qu'on a plus d'eau au-dessus de sa tête. Et donc, comme la pression, c'est une force par unité de surface, la force qui va s'appliquer sur une surface donnée au bas de la piscine va être plus importante que la force qui va s'appliquer sur une surface donnée au sommet de la piscine. Et donc, la différence de pression issue de pression et donc de force va induire une force résultante qui va monter. Tout simplement.
Qu'est-ce qui est intéressant de ce que vous étiez en train de dire par rapport au XVIIIe siècle, les Anglais qui traduisent Archimède? On voit qu'en fait, au Moyen-Âge, on a un savoir, le savoir d'Archimède qui se perd aussi à cette période-là.
C'est-à-dire, on ne sait pas bien exactement, enfin, on a le texte grec à peu près. Il y a aussi les traductions commentées dans le monde arabe, qui ne sont pas quelconques. Et puis, on a une reprise en main avec Archimède. Mais par exemple, sur les forces dans l'eau, etc., c'est les forces mouvantes sur les corps flottants. La bonne traduction, elle est en latin, mais elle ne date que de la fin du XVIIe siècle. Elle est faite en Angleterre, et très bien faite d'ailleurs. Et du coup, c'est ça que je voulais expliquer, du coup, on reprend Archimède et la notion de stabilité d'un vaisseau. C'est-à-dire que ça bouge un vaisseau, ça tangue, c'est bien connu. Et du coup, est-ce que quand un vaisseau se met à tanguer, quelles sont les conditions pour que il ne verse pas, tout simplement. Et on a des exemples très connus. Et au XVIIe siècle, c'était une des erreurs de l'architecture navale, c'était qu'on avait des navires de bonne qualité, bien fait, mais qui versait, qui tombait. Donc, l'exemple le plus connu est évidemment l'exemple du vaisseau du roi Gustave Adolphe en Suède, le Vasa, qui a coulé par beau temps, simplement par erreur du métacentre. Le point est simple, l'idée est simple, à savoir que au fond, sur un vaisseau, il y a bien des choses, mais enfin, il y a deux forces qui s'exercent. Il y a le poids du vaisseau, là, son fret, etc. Et puis, la poussée d'Archimède, je mets de côté qu'il avance, j'oublie la force dans les voiles, etc. Mais ces deux forces, ben, forcément, elles forment un couple. Donc, le problème, c'est assez simple à comprendre, que si le métacentre, là où se met la poussée d'Archimède, se trouve au-dessous du centre de gravité, là où se met la gravité,
c'est instable.
Voilà, donc c'est assez simple. Archimède aurait pu le faire, mais c'est ça que la science évolue.
Voilà, la poussée, ce sont donc ces travaux fondateurs pour la discipline de l'hydrostatique. Maintenant, pourquoi est-il considéré comme l'un des précurseurs du calcul intégral et infinitésimal ? Restez avec nous. Escale à Syracuse avec le groupe Voyou en direct sur France Culture, car nous parlons du mythique Archimède, savant du 3e siècle de la cité méditerranéenne. On en parle avec nos deux invités du jour, Jérôme Pérez, enseignant-chercheur en astrophysique théorique à l'ENSTA de l'Institut Polytechnique à Paris, et Jean Dombre, mathématicien et historien des mathématiques. On a vu que Archimède a mis les mathématiques au service de la mécanique. Il propose des méthodes novatrices pour mesurer le monde. Il conçoit des machines pour défendre sa cité assiégée. Chez Archimède, on a aussi vu que mythes et histoires s'entremêlent pour construire l'une des plus grandes figures de l'Antiquité grecque. Et Archimède propose également une nouvelle méthode de calcul de la constante de pi.
Alors, le nombre pi.
Ah, pi, c'est aussi un nombre. Encore un coup de chapeau au nombre pi. Vraiment, c'est la Brigitte Bardot des mathématiques. C'est le nombre extraordinaire.
C'est 3,1416. Il faudrait peut-être le rappeler.
Pi, oui. Et il est apparu. Moi, je dis 3,14 comme à l'école communale, ça me suffit, mais on pourrait mettre 500 000 décimales que l'on connaît maintenant, depuis qu'on les a calculées il n'y a pas très longtemps.
Ah, c'est le dernier calcul, parce que ça change assez souvent. C'est le dernier.
Oh, 500 000. On a calculé le prix de revient d'un million de décimales, on a préféré ne pas faire la dépense. C'est le rapport, comme on le sait, de la longueur de la circonférence au diamètre, à la longueur du diamètre, mais c'est bien des choses. On le rencontre dans le calcul des probabilités, on le rencontre en analyse, en arithmétique. Et ce nombre pi, dont on s'était demandé si c'était un nombre rationnel, c'est-à-dire un nombre entier divisé par un nombre entier, il a fallu attendre depuis l'Antiquité, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, jusqu'à 1882, pour voir un mathématicien allemand, Lindemann, démontrer qu'il n'est pas solution d'une équation algébrique, et c'est une des plus grandes découvertes de tous les temps, donc 2000 ans de recherche et de casse-tête, et après qu'il l'a eu trouvé, un autre grand mathématicien, Kronecker, qui était l'ennemi un peu de Lindemann, s'est écrié « Quelle malchance que l'on ait trouvé une aussi étonnante propriété à un nom qui n'existe pas !»
Voilà la voix de François Le Lyonnais sur l'ORTF en 1974. Alors Archimède propose donc une nouvelle méthode de calcul de pi, cette Brigitte Bardot des mathématiques, mais qu'a-t-elle de nouveau, Jérôme Pérez ?
Alors, d'abord, il faut revenir un peu sur ce nombre, qu'est-ce que c'est ? D'abord, il s'appelle pi parce qu'à cette époque-là, on avait compris que c'était le rapport du périmètre sur le diamètre. Donc à cette époque, on l'appelait pi sur delta. Pi pour périmètre et delta pour le diamètre. Donc pendant très longtemps, on ne notait pas pi, on notait pi sur delta. Et puis, c'est plus tard que c'est devenu pi, pour simplifier. Et donc, c'est un nombre qui est très important, puisque c'est le rapport de la longueur d'un cercle à son diamètre. Et donc ça, quand on fait de la géométrie, comme le faisaient les Grecs à cette époque-là, et les mathématiciens en général, c'était quelque chose qu'il fallait connaître. Et donc, on a beaucoup de mal à mesurer ces choses, pour construire ces choses de façon géométrique, pour avoir la valeur. Et donc, l'apport d'Archimède, même s'il n'a pas tout fait dans ce domaine, mais il a obtenu la valeur de ce nombre magique, en faisant une approche itérative, on va dire. Et donc, l'idée est très simple. Quand on dessine un cercle, on voit très bien qu'on peut dessiner un carré à l'intérieur. Il suffit de prendre quatre points équidistants sur le cercle. Ça dessine un carré à l'intérieur. On voit aussi qu'en faisant grossir ce carré, de manière à ce que les côtés deviennent tangents au cercle, on va avoir un carré qui va contenir complètement le cercle. Et on se rend compte qu'on peut approximer l'aire du cercle, la surface de ce cercle, par l'aire du grand carré et l'aire du petit carré. L'aire de ce cercle va être comprise entre les deux. Et comme c'est très facile de calculer l'aire d'un carré, eh bien, il avait un premier encadrement. Et puis ensuite, il s'est dit, si j'augmente le nombre de points sur le cercle, au lieu d'en prendre 4, j'en prends 5, ça fait donc un pentagone. Eh bien, je vais faire la même méthode, et puis un hexagone, et puis etc. comme ça. Il va dessiner des polygones de plus en plus, avec un plus grand nombre de côtés. Et il va obtenir comme ça une expression, un encadrement, comme on dit en mathématiques, de la valeur de pi de cette manière, par la longueur de ces côtés, de ces deux polygones, celui qui est inscrit et celui qui est circonscrit au cercle.
Oui, il prend en effet un polygone à 96 côtés pour parvenir à cette excellente approximation. Mais alors ça a posé quand même pas mal de questions, parce que on l'a 96 côtés, bon, ok, mais ça va quand même poser la question de est-ce qu'on va tendre vers l'infini.
Voilà,
ou pas.
C'est le passage à la limite qui pose problème. D'ailleurs, même si pas forcément exprimé sur la question, mais c'est ce qui a alimenté les mathématiques en suivant cette affaire. Hein. Est-ce que, alors c'était un problème qui avait déjà été soulevé par les Grecs avec le fameux paradoxe de Zénon. Hein. Est-ce que Achille va rejoindre la tortue en divisant à chaque fois par en deux la distance ? Est-ce qu'il y a une série qui va converger, même s'il se posait pas le problème de cette manière ? Mais en fait, la notion de convergence des séries vers un nombre fini, c'est ça qui va permettre de donner un sens mathématique réel à la méthode d'exhaustion, comme on l'appelait à l'époque, d'Archimède. Alors, il n'a pas fait ça que pour le cercle, il a fait ça aussi pour d'autres courbes, hein, puisqu'il a obtenu l'aire d'une sphère, le volume d'un cylindre, etc. Il a tout un tas de résultats là-dessus. Puis, il a fait ça pour une courbe beaucoup plus compliquée, on va dire, ça s'appelle la parabole. Alors la parabole, ceux qui ont fait un petit peu de, ils sont allés un petit peu en seconde, etc. Ils ont tous tracé une parabole. C'est la courbe y égale x carré. Et ça y est, j'ai dit une formule, un gros mot. Mais elle n'est pas très compliquée. Y égale x carré. Donc ça fait une espèce de courbe là. C'est la fameuse courbe qui permet de dessiner une antenne, hein, pour recevoir des ondes, etc. Elle a plein de propriétés géométriques, cette courbe. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de connaître l'aire sous une droite. Donc, vous pouvez tracer une parabole, vous tracez une droite qui la coupe en deux points, et vous voulez calculer l'aire qui se trouve sous cette parabole, sous cette droite. Le segment de parabole, ça s'appelle comme ça. Et alors, pour la première fois dans l'histoire, Archimède va énoncer le résultat. En fait, il y a un lien étroit entre l'aire sous ce segment et le triangle qu'on peut former avec cette parabole. Et c'est un résultat qui est tellement extraordinaire, que c'est tellement beau que c'est compréhensible par tout le monde. Et alors, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que lors de mes recherches, il y a quelques années, pour essayer de comprendre quelle pouvait être la nature de l'interaction gravitationnelle entre les étoiles dans les amas d'étoiles, on s'était posé un problème qu'on voulait résoudre depuis un petit moment, et puis on est tombé sur des paraboles. Et on connaissait pas forcément ce résultat avec les gens avec qui je travaillais de d'Archimède. Et puis en creusant, on a vu que ben, y avait ce nombre 4 tiers qui apparaissait. Et quand on a essayé, cherché à le comprendre, on a vu qu'Archimède l'avait trouvé il y a plus de 20 siècles avant. Et on a pu faire le lien entre ces travaux d'Archimède et des propriétés de gravitation dans les amas globulaires qui peuplent l'univers contemporain.
Ça dit aussi la modernité de ce mathématicien, finalement.
Tout à fait. Alors, on était très contents.
je reviens à notre pi. Archimède qui fait donc le premier calcul théorique de pi le plus précis de son époque. Alors aujourd'hui, on est parvenu à calculer donc des valeurs de pi avec une plus grande précision. On est aussi rentré dans la chasse aux décimales grâce à l'informatique. On a découvert des billions de décimales de pi. À l'époque, Jean Dombre, cette nouvelle méthode de calcul de pi, ça sert à quelque chose ?
C'est toujours la question avec les mathématiques. L'affaire est toujours là. C'est impossible aujourd'hui de faire des mathématiques de la physique si on n'a pas le nombre pi. Hein, c'est évident. Donc la réponse est oui, bien sûr, ça sert, mais 20 siècles peut-être pour que ça serve. Ce qui est remarquable, je répète encore, avec Archimède, c'est qu'il va réfléchir sur la façon dont il a trouvé une approximation. Il met entre 21 septième, disons 3, ou 21 10 sur 70 et 22 septième, c'est l'encadrement
qui prend 22 septième,
qui est joli comme affaire.
C'est 0,2% d'erreur.
Hein. Ah oui, c'est remarquable. Mais il réfléchit comment il l'a obtenu. C'est-à-dire pour que, bon, alors on peut dire, il y a le calcul. Ce que nous avons comme texte, c'est que il utilise. Et là, nous avons un phénomène intéressant parce qu'il utilise pour le calcul, ce qui paraît pas bien utile, mais il utilise pour le calcul quelque chose sur la racine carrée du nombre 3. Et donc, il utilise un autre nombre, un autre type de raisonnement, toujours savoir que son appel sur un nombre irrationnel, et il lie ensemble, il est capable de lier ensemble un nombre irrationnel et un autre nombre qui se trouve être plus qu'irrationnel mais transcendant, le nombre pi. Et il lit les choses. Donc, en fait, ce qu'il est en train de montrer, simplement dit, c'est que, a priori, c'est inutile de s'occuper de l'irrationalité de 3 ou d'en donner plus de chiffres, ou celle de pi tout en quoi. Ah oui, mais si je suis capable de montrer qu'il y a des liens de calcul, il va pas plus loin. Du coup, il met en place une méthode. D'ailleurs, c'est la première fois que nous avons dans l'histoire des mathématiques, quelqu'un qui, non pas explique ses résultats, Euclide donne des résultats, bien, c'est remarquable. Là, nous avons quelqu'un qui, on a trouvé un texte d'Archimède, c'est assez étonnant les façons dont ça fut trouvé au début du XXe siècle, dans le texte dans lequel il explique sa méthode. On le dit en latin, des méthodos, c'est-à-dire j'explique, et le plus étonnant, c'est que pour expliquer son résultat, il utilise un instrument physique. Alors, on me dirait un instrument physique. Un instrument physique mathématisé, le levier. Hein, et fait son calcul avec le levier. Là, vous avez un bon exemple où faire une séparation au total sur ce qu'a fait Archimède entre une manipulation physique, appelons-la comme ça, et une manipulation mathématique, j'appelle manipulation les deux, mais pour lui c'est dans le même monde.
En effet, donc ce premier calcul, en tout cas théorique de pi, à l'époque, ça ne sert à rien, mais ça change la façon d'entrer dans le fond même de ce qu'est un objet mathématique. C'est le début des maths analytiques. Et puis là, vous évoquez le principe du levier. Ça, c'est dans son traité de l'équilibre des figures planes. Il s'intéresse au principe du levier et au centre de gravité, Jérôme Pérez.
Oui, il s'intéresse à beaucoup de choses.
Touche à tout, on l'a dit.
Alors, le principe du levier, ça, c'était connu, l'équilibre, tout ça, c'était des choses. Comme je l'ai dit au début, on est à une époque formidable où on veut construire des bateaux. D'ailleurs, il a aidé à la construction du Syracusia qui a été offert au Ptolémée.
Le Syracusia, qui était une sorte
bateau,
de Titanic.
Un bateau gigantesque. Il y en a eu d'autres. Hein. La flotte des Lagides était la plus importante du monde à l'époque. Et il fallait vraiment, il y avait des gros problèmes de stabilité, parce qu'elle était, ces bateaux étaient mus par des rameurs, il y avait des milliers de rameurs dans ces bateaux, il fallait que ça reste stable, il fallait faire des études assez poussées pour comprendre tout ça. Et donc c'est à peu près clair qu'ils savaient manier le principe des balances et des leviers, etc., pour pousser tout ça. Je pense que c'est pas la partie de la physique la plus intéressante qui a été chez Archimède. Une partie qui me semble beaucoup plus fondamentale, et moins connu, parce qu'on parle d'Archimède le mathématicien, on parle d'Archimède le physicien, etc., l'ingénieur. Mais Archimède a aussi eu une contribution tout à fait notable en astronomie, puisque il a écrit un livre qui est un peu bizarre, j'invite tout le monde à le lire, d'ailleurs, ça s'appelle L'Arénaire, un livre extraordinaire dans lequel il cherche à dénombrer le nombre de grains de sable qu'on peut mettre dans l'univers tout entier. Alors pourquoi il fait ça? Parce que c'est une question un peu saugrenue, hein, comme essayer de calculer toutes les décimales de pi, c'est impossible, etc. Il essaye de faire ça pour essayer de comprendre ce que c'est qu'un grand nombre. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas la possibilité, hein, on utilisait des moyens de noter les nombres qui étaient très très archaïques. Et donc il essaye de comprendre comment on peut noter les grands nombres. Et donc il se pose un problème dans lequel il y a un très grand nombre, le nombre de grains de sable qu'on peut mettre dans l'univers. Donc premièrement, il va écrire un livre pour essayer de donner des notations pour les grands nombres. Et ensuite, il va y parvenir. Et alors pourquoi il y parvient? Parce que justement, un de ses contacts astronomiques, qui était Conon, qui était à la bibliothèque d'Alexandrie, Conon que j'adore parce que c'est quelqu'un qui a doté le ciel d'une constellation, la constellation de la chevelure de Bérénice, puisque le roi devait partir à la guerre, et donc la reine avait dit « je vais donner au temple une partie de ma chevelure ». Et parce que comme ça, tu vas revenir. Et quand le roi revient, et il veut rendre la chevelure à sa femme, et la chevelure a disparu, elle a été volée. Et donc Conon, l'astronome, a dit « je l'ai mise dans le ciel et c'est devenu une constellation ». Alors Conon là on a des relations, hein. Conon est venu à Syracuse pour travailler avec Archimède. Et je pense que c'est à ce moment-là, même si on n'en est pas sûr, que Archimède a pris connaissance de travaux de certains astronomes d'Alexandrie, dont le fameux Aristarque de Samos, qui avait postulé le fait que la Terre devait ne plus être au centre, mais le système du monde devait tourner autour du Soleil, le modèle héliocentrique. Et il voulait essayer de démontrer que ce système ne pouvait pas marcher malgré les apparences qui était face à lui.
Et on reviendra dans quelques instants vraiment sur ces histoires de gros volumes à calculer, ces volumes du cosmos, mais je reviens quand même une toute petite chose, parce qu'on parlait du levier, hein. C'est quand même Archimède qui aurait prononcé cette phrase, donnez-moi un point d'appui et un levier, je soulèverai le monde. Et puis, à propos de volumes, il se lance quand même dans un très grand nombre de calculs de volumes, il prouve l'aire d'une sphère, et il juge d'ailleurs cette découverte tellement importante qu'il veut que ce soit gravé sur sa tombe, Jean Dombes. Ça dit aussi quelque chose du personnage.
Ça dit quelque chose du personnage, ça dit aussi quelque chose de son plaisir à avoir démontré cette affaire. Et puis, la légende, mais non, c'est pas simplement une légende, c'est une réalité. Ça permet, plusieurs siècles après, ça permet à Cicéron de retrouver l'emplacement de la tombe d'Archimède, ce qui prouve qu'on avait un petit peu perdu de vue à Syracuse, parce que dans les ronces, alors Cicéron est questeur de Sicile à ce moment-là, et dans les ronces, il découvre un cylindre, et à l'intérieur du cylindre, une sphère tangente aux deux côtés supérieurs du cylindre, donc une magnifique démonstration, qui peut se faire par d'autres calculs aujourd'hui, bien entendu, mais la démonstration par Archimède, elle est belle, elle est simple, elle est profonde, ça me paraît important. Peut-être que là, je pourrais rajouter quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la démonstration, mais on a absolument essayé, et c'est normal, de trouver des influences. Quels sont les penseurs, philosophes notamment, qui ont pu inspirer Archimède? Et ce qui est assez riche, et là, c'est une affaire d'autonomie de la pensée scientifique. Archimède, certainement, a pu être platonicien, il a pu être aristotélicien, il a pu être pythagoricien, il a pu être sceptique, on prétend qu'il a du matérialisme dialectique chez lui, enfin, peu importe. C'est pas impossible. Ce qui importe, c'est que lui n'en parle pas. Il n'en a pas, j'allais dire, c'est pas qu'il méprise la philosophie. ce qu'il est en train de faire, c'est une création, il est en train de changer la façon dont on maîtrise le monde. Et je crois que c'est important de signaler, pas mépris de la philosophie, mais c'est pas ça forcément qui me guide.
On va dire qu'Archimède est archimédien. Voilà, parce qu'en plus, archimédien, c'est quelque chose en mathématiques. Hein. Quand on est archimédien, c'est-à-dire qu'on peut être décomposé en parties élémentaires qu'on peut additionner pour former le tout. Oh, et cette notion-là est très importante dans plein de domaines.
Et ben on va
donc Archimède et archimédien.
On va continuer à être archimédien, puisque Archimède a aussi fait donc de l'astronomie, comme vous étiez en train de nous en parler. Il a postulé que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Alors comment un tel génie a-t-il pu faire cette erreur ? Restez avec nous.
Je regrette, je vais vous prouver qu'il en a pas besoin. Archimède, je voudrais que tu regardes bien.
France Culture.
Attention, je le lance.
La science, c'est QFD.
Non.
Natacha Triou.
C'est correct ce que vous avez dit.
Mais non, évidemment, j'oubliais évidemment dire, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Bon, alors, la science qui fait légende avec Archimède, nous sommes en direct sur France Culture avec Jérôme Pérez et Jean Dombre. Et en effet, on va parler de ce savant qui s'attaque au cosmos, de l'étude des cieux par les mathématiques. Et alors, on évoquait il y a quelques instants Aristarque qui, au 3e siècle avant notre ère, est le premier à proposer un système héliocentrique, c'est-à-dire un univers centré sur le Soleil. Il fait cette conclusion, le Soleil est au moins 6 fois plus gros que la Terre, alors pourquoi faire tourner la torche autour de la mouche ? Et Archimède va donc à l'encontre de cette théorie, il réfute l'héliocentrisme, Jérôme Pérez.
C'est l'erreur d'Archimède.
C'est l'erreur d'Archimède.
Alors d'abord, il faut revenir sur pourquoi Aristarque a dit ça, parce que beaucoup de Grecs ont dit des choses par conviction ou par réfutation d'autres hypothèses. Dans le cas d'Aristarque, ce n'est pas du tout le cas. En fait, on peut constater de façon assez simple que le Soleil et la Lune ont à peu près le même diamètre apparent. Hein. D'ailleurs, quand la Lune se met exactement devant le Soleil, ça fait une éclipse, ça ne dure pas très longtemps. Donc les deux astres ont le même diamètre apparent. Et d'ailleurs, Archimède a calculé ce diamètre apparent, la 200e partie d'un angle droit. Ça marche à peu près, ça fait la moitié d'un degré. Et donc, les deux astres ont le même diamètre apparent, mais dans une configuration dans laquelle la Lune est éclairée à moitié, ce qu'on appelle un premier quartier ou un dernier quartier, eh bien, on voit qu'il y a un triangle rectangle qui se met en place, avec les trois corps que constituent la Terre, le Soleil et la Lune. Et si on a un triangle rectangle, on sait à cette époque calculer les rapports des distances dans un triangle rectangle, si on sait mesurer un angle dans le triangle supplémentaire. Et c'est ce qu'a fait Aristarque de Samos, en calculant un angle qui est de l'ordre de 3 degrés, 87 degrés, suivant celui qui calcule, bien il arrive à estimer que le Soleil est au moins 10 fois plus loin que la Lune. Et donc si le Soleil est au moins 10 fois plus loin que la Lune, alors que la Lune et le Soleil ont le même diamètre dans le ciel, c'est que le Soleil est au moins 10 fois plus gros que la Lune. Et comme la Lune est 3 fois plus petite que la Terre, eh bien le Soleil est plus gros que la Terre, beaucoup plus gros que la Terre. Et donc c'est de ce calcul que Aristarque a déduit, parce que là c'est un calcul, c'est pas une affirmation gratuite, hein, comme on pouvait en faire à l'époque, basé sur des calculs, il en a déduit que le plus logique, c'était de faire tourner le petit corps, la Terre, autour du gros corps, et chaud en plus, le Soleil. Et alors Archimède n'est pas d'accord. Pourquoi ? Eh bien parce que si la Terre tourne autour du Soleil, eh bien les étoiles fixes, qui étaient différentes des planètes. Hein. Les planètes, à l'époque, ce sont le Soleil, la Lune, tous les objets qui ont un mouvement errant, des astres errants dans le ciel. Donc il y avait 7 planètes, hein, le Soleil, la Lune, et puis les 5 planètes qu'on voit à l'œil nu. Puis il y avait des astres fixes, sur la sphère des fixes, les constellations.
C'est ça, elles sont fixées sur une sphère très lointaine.
Voilà, et alors la distance, alors pour calculer la distance de ces étoiles fixes, de cette sphère des fixes, comme c'est devenu plus tard le cas, eh bien, Archimède va faire une hypothèse, il va dire, si le monde a un sens, tout ça est expliqué dans l'Arène, hein, je vous invite à le lire, hein. C'est très clair en plus, vous allez voir, c'est un texte vraiment très simple. Donc si le monde est compréhensible, etc., est pas complètement dénué de sens, on va dire, la sphère des fixes est 10 fois plus loin que le Soleil. Alors c'est beaucoup moins qu'en la réalité, hein. En réalité, l'univers est beaucoup plus vide que ça, mais bon, à cette époque, il prend cette hypothèse. Et donc, il calcule le volume, comme ça, de l'univers, de la sphère contenue de cette sphère des fixes, le volume que ça représente. Et c'est pour ça qu'il calcule le nombre de grains de sable correspondant, parce que c'est un nombre très grand, et ça lui permet de définir les grands nombres, des velléités de définir les grands nombres à une époque où personne ne savait le faire. Ça préfigure d'ailleurs les puissances de 10, qui est tout à fait remarquable pour l'époque. Et donc, une fois qu'il a cette distance, il se dit, mais donc si la Terre tourne autour du Soleil, je vais voir les étoiles fixes de deux points de vue différents entre à mi-parcours de son orbite, c'est-à-dire entre le printemps et l'automne, ou entre l'hiver et l'été, les deux extrémités de l'orbite, je vais voir les étoiles de deux points de vue différents. Et ces points de vue différents devraient faire osciller les étoiles dans le ciel, ce qu'on appelle un mouvement de parallaxe des étoiles, que je n'observe pas. Il calcule la parallaxe qu'il doit observer, de l'ordre du diamètre de la Lune, justement. Et donc, on devrait observer ce mouvement de parallaxe. On ne l'observe pas. Donc, il faut réfuter l'hypothèse d'Aristarque. Donc, l'erreur d'Archimède, c'est d'avoir cru que l'univers était trop petit, alors qu'il est bien plus grand. Alors, la première mesure de parallaxe des étoiles, hein, puisque effectivement, c'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil, elle a été faite au 19e siècle par Bessel, un autre très grand mathématicien.
Voilà, pour sa défense, et puis on voit bien qu'il y a une volonté donc de s'attaquer. En effet, comme je disais, hein, l'étude des cieux par les mathématiques, le cosmos peut être appréhendé, on peut en parler scientifiquement et le chiffrer. Dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbault, mais un grand merci à vous deux de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. On quitte les mathématiques et l'Antiquité et on se rend à Madagascar, où sa faune exceptionnelle est en danger, critique d'extinction. C'est la chronique avec science.
Quels étranges lézards se dissimulent dans le sable de Madagascar ? Il existe près de 4000 espèces de lézards à travers le monde. Ils ont colonisé tous les milieux et tous les continents, sauf les pôles. La majorité de la diversité se trouve aux tropiques, comme pour la plupart des autres groupes animaux. Les lézards, eux, sont tous à sang froid. On les dit ectothermes. Ça ne veut pas dire que leur sang est vraiment froid, mais qu'il dépend de la température extérieure. Et avoir quatre pattes n'est même pas un critère obligatoire pour les lézards. Certaines espèces, comme l'orvée, les ont perdues ou n'en gardent que des vestiges. C'est un groupe, finalement, extrêmement varié et diversifié, en forme, en couleur et en mode de vie, y compris à Madagascar, où l'on trouve des lézards étranges, tellement adaptés au sable qu'ils ressemblent à des vers de terre. Aurélien Mirales est enseignant-chercheur à l'Institut de Systématique, Évolution et Biodiversité du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.
Des lézards syncidés, fouisseurs, qui vivent dans le sable. Il en existe différentes lignées un peu partout sur la planète, que ce soit par exemple dans le Sahara ou en Australie. Et à Madagascar, il y a notamment un genre qui s'appelle le genre Voltskovia, dédié en l'honneur d'un chercheur polonais, je crois, à l'époque, qui s'appelait Voltskov. C'est un groupe qui vit qu'à Madagascar, qu'on ne trouve que dans le nord, dans des zones très arides, composées de sable blanc. C'est un milieu qui est extrême, hein, les zones sableuses arides, parce qu'à la fois, c'est extrêmement chaud, il n'y a quasiment pas de nourriture, pas d'abri, c'est extrêmement abrasif, c'est suffocant. Donc, bon, c'est les organismes qui sont très adaptés, très dérivés, qui sont très surprenants, qui ne ressemblent pas du tout à des lézards. Ça ressemble en effet plus à des sortes de gros vers qu'à des lézards. Ils ont un aspect anguilliforme, ils ont quasiment plus de pattes. Les yeux ont quasiment disparu, ils sont aveugles. Ils sont tout rose pâle. C'est des organismes effectivement très étranges.
Ces lézards du genre Voltskovia ont été observés pour la première fois en 1893 et puis plus rien. L'espèce en question n'a jamais été vue de nouveau. Deux autres espèces ont été découvertes plus récemment, en 2003 et 2011, mais trois espèces, c'est bien peu pour essayer de comprendre l'origine de ces mystérieux lézards des sables. C'est pour cela qu'une nouvelle étude publiée dans le Zoological Journal of the Linnean Society est partie sur le terrain à la recherche de nouveaux spécimens. Et pour les débusquer, il a fallu fouiller dans le sable. Les scientifiques sont allés d'abord chercher directement sur les images satellites de Google Earth les zones sableuses de l'île, puis ils sont allés creuser. Résultat, deux nouvelles espèces ont été identifiées. La première, c'est Voltskovia volontani. Volontani signifie marron en malgache, c'est donc sa couleur. Et la seconde, c'est Voltskovia chaïouloud, un clin d'œil au vert des sables géants dans Dune de Frank Herbert. Mais quel est l'intérêt de découvrir deux nouvelles espèces d'un groupe aussi méconnu?
Le fait de découvrir ces deux espèces, en soi, c'est pas quelque chose d'exceptionnel dans le sens où des nouvelles espèces sont régulièrement découvertes à Madagascar. Mais si on revient plus spécifiquement sur cela, c'est extrêmement intéressant parce que ces organismes qui sont prisonniers, entre guillemets, des zones de sable, peuvent nous permettre de raconter l'histoire évolutive de l'île et notamment son histoire aride. L'apparition et la formation des milieux arides à Madagascar, qui est un point qui n'est pas très connu, voire même très peu étudié. Parce que Madagascar, c'est un peu comme l'Australie, c'est très diversifié. Il y a des zones qui sont arides et il y a des zones qui sont tropicales humides. Et puis, d'une façon générale aussi, et ça, c'est juste un constat alarmant de plus, c'est que ces deux espèces sont à peine décrites que déjà, dans l'article, nous proposons, selon des critères scientifiques établis par l'IUCN, déjà, nous proposons de les considérer comme toutes les deux en danger critique d'extinction.
Et ça, c'est finalement très courant. Quand on découvre une nouvelle espèce, c'est toujours un animal rare, déjà très vulnérable et soumis aux pressions humaines, que ce soit par notre simple présence, par la dégradation de leur habitat, ou encore par des pollutions en tout genre. L'autre résultat de l'étude est plus inattendu et même un petit peu fortuit. En cherchant les zones de sable susceptibles d'abriter ces lézards vermiformes, les chercheurs ont mis en évidence un véritable archipel de dunes qui traverse Madagascar. Ces taches de sable formaient autrefois une bande continue de 1500 km de long qui serait apparue il y a environ 15 millions d'années, un élément qui complète donc l'histoire géologique et l'aridification progressive de l'île. La suite de ces recherches est déjà en cours. Ce chercheur est actuellement à Madagascar, dans la partie sud de l'île cette fois, pour aller débusquer d'autres lézards des sables et comprendre comment des organismes peuvent vivre et s'adapter dans des environnements aussi extrêmes.
Merci Alexandra pour votre chronique. Comme chaque mercredi, c'est l'heure de retrouver le fil science. Tout de suite, Evelyne Heyer, professeure d'anthropologie génétique. C'est un partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle et elle nous propose chaque mercredi l'Odyssée des humains.
Mais qui a fabriqué les premiers outils ? Pendant très longtemps, on a pensé que seuls les humains fabriquaient des outils. C'était même une des caractéristiques du genre Homo auquel nous, Homo sapiens, appartenons. D'ailleurs, le plus ancien représentant du genre Homo a été désigné Homo habilis, hein, du fait de l'anatomie de ses mains. L'humain habile, donc, et il date de 2,5 millions d'années. Et pourtant, des découvertes majeures ces 15 dernières années ont bousculé cette certitude. Tout d'abord, le plus vieil outil en pierre du monde, découvert au Kenya, date d'avant les débuts du genre Homo. Il a plus de 3 millions d'années. Alors, à quoi ressemblent ces premiers outils dont on parle ? Ce sont de grosses enclumes, blocs et éclats. Un moulage de ce plus vieil outil du monde est exposé au Musée de l'Homme à Paris. Il diffère des galets aménagés qui sont des galets rendus tranchants par l'enlèvement d'éclats que l'on va trouver après 2,6 millions d'années. À l'époque de ces premiers outils en pierre, il y a donc environ 3 millions d'années, vivaient des espèces que l'on dit pré-humaines, les australopithèques, comme la fameuse Lucie. C'est bien avant les premiers humains, ceux que l'on regroupe dans le genre Homo. Et une autre découverte majeure a bouleversé les connaissances. Les chimpanzés aussi fabriquent et utilisent des outils. Certains cassent des noix avec des grosses pierres, comme une enclume et une masse. D'autres transforment des tiges ou des branches d'arbres selon leur usage. Ils les effeuillent, puis mâchouillent l'extrémité pour faire une sorte de brosse. Introduite dans des nids ou des galeries d'abeilles, cette brosse ressort couverte de miel. D'autres groupes de chimpanzés préparent des baguettes effeuillées de longueur et de diamètre adaptées pour collecter des termites ou des fourmis dans leur galerie. Habile, hein ? Encore plus intéressant, différentes communautés de chimpanzés fabriquent et utilisent des outils différents, en fonction des cultures apprises et transmises dans leur communauté. Deux groupes voisins vivant dans le même type de forêt peuvent donc avoir des pratiques et des cultures différentes. Mais les chimpanzés ne sont pas les seuls animaux à fabriquer ou utiliser des outils. Depuis, des éthologues ont également observé que des oiseaux, des corvidés, les corbeaux, sont capables en laboratoire d'utiliser des bouts de fil de fer pour aller chercher des insectes. Les dauphins, quant à eux, utilisent des éponges de mer pour se couvrir le museau et aller chercher de la nourriture dans les fonds marins. Bref, Comme le dit ma collègue primatologue, Sabrina Krief, non, nous ne sommes pas les seuls à fabriquer des outils. L'outil n'est pas le propre de l'humain. Par contre, nous sommes peut-être les seuls à utiliser un outil pour fabriquer un autre outil. On parle alors de méta-outil. Bref, bien difficile de savoir qui a fabriqué les tout premiers outils. Mais nous sommes bien les seuls à avoir fabriqué des outils pour faire des chroniques sur le sujet.
Merci Evelyne Ayer pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD. À la réalisation, c'était Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Grégory Wallon, et c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.